3, 2, 1, top chrono, c'est parti, on y va. Salut et bienvenue dans la deuxième édition du Radio Virus Show. On est quatre autour de cette table, moi c'est Crystal et mon pronom c'est elle.
Et moi c'est Diane et mon pronom c'est elle.
Moi c'est Lola et c'est elle.
Moi c'est Mona, elle aussi.
Et on va commencer au taquet avec une super chanson d'un super groupe, c'est Unzint qui nous chante « Heterosexuality is a construct ».
Terrified to admit that you're in their lives. There have been moments when they've whispered in their minds. One more comment, one more joker. Don't accept it. I won't tolerate intolerance this time. I'm not a heterosexual man. Not ticking your boxes, that's not who I am. No, I don't fit into your knee little plan, and I never will. I'm not a heterosexual man. Not ticking your boxes, that's not who I am. No, I don't fit into your knee little plan, and I never will. Jesus Christ, I'm done with it, you narrow-minded piece of shit. I'd sooner cut off my own dick than be like you. Did that make you uncomfortable? Is your macho pride in trouble now? When you're beating me up, then what will you do? Boxes, that's not who I am. No, I don't fit into your neat little plan, and I never will. I'm not a heterosexual man. Not ticking your boxes, that's not who I am. No, I don't fit into your neat little plan, and I never will. Not a crime, and I draw the colour outside of the lines. Love knows no gender, and it's about time you nailed your colours up next to mine. Love is not a crime, and I draw the colour outside of the lines. Love knows no gender, and it's about time you nailed your colours up next to mine. Love is not a crime, and I draw the colour outside of the lines. Love knows no gender, and it's about time you nailed your colours up next to mine.
That's a good one.
Radio Virus, la radio qui meurt en même temps que le virus.
Elle est pas mal celle-là.
Du coup, pour cette deuxième émission, petite présentation du sommaire rapide. Sachant que si vous avez déjà entendu l'émission 1, on n'est pas à l'abri de surprises parce que bon, même si on a un sommaire assez rodé, on se laisse aller. Du coup, on va commencer par débriefer l'émission 1. Un petit retour, qu'est-ce qui a changé pour cette deuxième émission ? Ensuite, on aura un petit sujet sur la cueillette des plantes. Principalement, cette émission va être consacrée à un zine qui s'appelle « Tout rage dehors ». Le sous-titre, ça doit être un truc du style « Attaque et riposte contre le patriarcat et le monde qui le nourrit ». Vengeance, attaque et riposte et autodéfense contre le patriarcat et le monde qui le nourrit. Où on va en profiter pour discuter de choses et d'autres. Et on finira par une petite recette de cuisine comme... comme entre autres on avait diffusé la semaine dernière aussi. Du coup, tout de suite, on revient sur la première émission.
Alors, sur la première émission, ce qui pourrait être intéressant, c'est une émission qui était assez intense et peut-être de revenir un peu là, un peu plus à froid sur cette émission. Ça peut être rapide, mais de redire un peu qu'est-ce qui a changé maintenant, qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être. Je ne sais pas s'il y a une de vous qui a une idée là tout de suite pour commencer.
Bah si, moi je peux en dire que là on a commencé du coup cette deuxième émission en réécoutant d'abord l'émission de la dernière fois. Et moi je ne l'avais pas réécouté depuis en fait. Et à part une fois, mais bref. Et en fait ça va. Enfin, c'était bien de la réécouter et de... J'ai passé une semaine à me dire que j'étais ridicule et que nanani et que c'était dangereux ou je sais pas quoi de mettre cette émission dangereux pour moi, hein, pour mon... Comment est-ce qu'on dit ? Mon amour propre ou un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le mot. Et après, j'ai quand même été pas mal rassuré par des personnes autour de moi que je kiffe bien, en qui j'ai pas mal confiance. Et là, vraiment de la réécouter ensemble et de faire ce truc, ça fait que c'est... Même là, je suis 100 000 fois moins stressé que la dernière fois. Et plutôt, ça me fait un peu marrer, quoi. Vas-y, on refait une autre émission de radio, on essaye, et puis on va voir.
Ben ouais, moi je pense que c'était bien la dernière fois et que ça va être encore bien, j'espère. On va passer un super moment, avec des gens bien, parler des choses plus ou moins marrantes, mais quand même qui font du bien d'en parler. C'est ça qui est important.
Ouais, aussi on a... quelques outils en plus. Entre autres, on a un joker au milieu de la table qui est une carte où il y a écrit pause musique et comme ça on peut la pointer du doigt et envoyer, et ça fait qu'on envoie la musique si on a envie d'une pause parce qu'on profite des fois des musiques pour discuter de ah qu'est-ce qui vient de se passer, est-ce qu'on continue de parler de ça ou pas. Qu'est-ce qu'on a changé d'autre comme truc? On a un peu mieux préparé le déroulé du programme. Entre autres, on est un peu précisé quand même sur quoi on allait partir comme sujet qui pouvait potentiellement être pas simple à parler. Comme par exemple là, la riposte ou l'autodéfense ou des questions comme ça. Et
peut-être on pourrait vite fait indiquer comment on procède pour notre émission. Où en gros, on est autour d'une table, un peu dans des canapes, pas complètement. Et il y a des micros, on s'enregistre sur un ordinateur. Mais on fait quasiment comme si on était en direct. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même d'essayer de faire à peu près un one shot. Du coup, on parle, on passe de la musique, on passe des sons qui ont été enregistrés, préparés par d'autres personnes. Et idéalement, à la fin, pouf, c'est fini. C'est dans la boîte, voilà.
Et on se met autant la pression que si c'était indirect.
Oui, c'est beaucoup mieux comme ça.
Peut-être un petit peu moins.
Un petit peu moins. Bah si, moi je peux quand même dire un truc. Pour moi, le truc qui a le plus changé par rapport à la première émission, c'est ma présence. Parce
que Lola n'était pas là.
Nous a rejoint la dernière fois. Ah mais c'est ça. Ok, d'accord, je me demandais, moi je ne comprenais pas pourquoi il y avait une autre personne. Voilà. C'est toi en fait.
Et en tout cas, même, c'est pas forcément... Enfin en tout cas, moi d'avoir déjà fait une émission il n'y a pas très longtemps, ça me... Enfin, d'avoir ça comme référence, je trouve que ça me rassure vachement. De là, je sais un peu plus ce qui va se passer, même si ça va peut-être être complètement différent. Mais voilà. Du coup, je me sens moins stressé que l'autre fois-ci.
Ouais, et puis, on n'est pas des personnes qui avons spécialement l'habitude de faire de la radio.
Non.
Et du coup, bah, là, c'est clair qu'on a plus d'expérience que la dernière fois. C'est quand même un truc qui n'est pas négligeable. On a environ deux fois plus. Ah non, on a une infinité de plus d'expérience que la dernière fois, quasiment.
Super.
Et ben la suite.
On peut enchaîner avec de la musique.
Un peu de musique.
Ah oui. Ouais. Carrément.
Alors on va écouter deux morceaux qui sont assez courts d'un groupe qui s'appelle Anomaly. C'est un groupe de punk queer de Chicago. Et donc c'est une chanson qui s'appelle Kill the White Devil. Et une autre s'appelle PS I Love You. Et ça parle entre autres de la place des mecs blancs dans la scène punk, on va dire, et une autre chanson qui est un peu une chanson d'amour pour les queers. Voilà. C'est parti.
Radio Virus. Face aux flics, il y a des astuces. Et on enchaîne avec une petite immersion dans l'univers cueillette d'une cueilleuse. Allons voir l'aubépine.
Alors aujourd'hui, on est parti à la cueillette d'aubépine. C'est parti. On part de bon matin. Enfin, de bon matin. On part le matin, c'est mieux pour cueillir les plantes. Mais pas trop tôt en fait, parce que ça sert à rien de les cueillir alors qu'elles sont encore humides de la rosée. Là, je suis à même pas 1,5 km d'une grande ville, dans un champ. Et les aubépines, on les reconnaît en ce moment parce qu'elles sont en fleurs. Ça y est, j'arrive déjà devant une aubépine, un arbre. Il y a plein de boutons de fleurs qui sont encore en petites boules. Il y en a quelques-unes qui sont déjà ouvertes. Et ça se récolte... je vais récolter un temps que je parle. Ça se récolte en boutons. Du coup, on peut... des petites poignées comme ça, où on décroche juste les fleurs et quelques feuilles, c'est pas très grave. Enfin, les feuilles, c'est bien aussi pour les tisanes. Bon, alors moi, ma philosophie, ça fait très sérieux. En tout cas, mon rapport à la cueillette, c'est je le fais parce que ça me fait du bien. Du coup, je suis pas pressé. C'est pas une c'est pas un travail, c'est pas, il n'y a pas de rendement. Mais à chaque fois que je cueille l'aubépine, je peux plus m'empêcher de penser à une une meuf dont c'est le métier. Enfin, elle cueille des plantes et elle les vend. Et son rapport aux plantes était tellement travail. C'était. Bref, elle me racontait que par exemple, elle mettait des gants assez costauds. Parce que l'aubépine, il y a plein d'épines quand même. D'où le nom. On reviendra. En tout cas, elle mettait des gants et elle arrachait toute une branche, enfin tout ce qu'il y a sur une branche avec son gant d'un coup pour aller vite. Et elle me parlait en termes de rendement. Et bon, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai pas du tout envie de les vendre, ces plantes. Alors, on va doucement. Je prends même le temps de choisir un peu parce que comme l'idée, c'est de prendre les boutons qui sont bien formés. C'est-à-dire ceux qui sont bien ronds, qui ont une couleur crème, on va dire, genre blanche en tout cas. Dans l'idée, faut pas prendre les petits boutons encore un petit peu verts qui sont pas vraiment encore mûrs, on va dire. Et il y a des fleurs déjà ouvertes, c'est pas grave non plus si on les prend. Hein, mais du coup, dans l'idée, je vise les petits paquets. C'est en petits paquets, ça pousse en petits paquets de fleurs. Du coup, je vise les petits paquets où il y a les boutons bien crème. De soja, bien sûr. Alors pourquoi je ramasse aux aubépines? Là, je cueille les fleurs. On pourra revenir à l'automne cueillir les fruits qui sont des petites boules noires, rouges. C'est une petite boule rouge. Moi, j'utilise l'aubépine comme tisane un peu n'importe quand. Je crois que je viens d'écraser un truc. Un insecte. Oups. Ouais, y a plein de limaces de chenilles dans les aubépines. Elles font leurs larves dans les fleurs, j'ai l'impression, dans les boutons. Oups, une branche contre le micro. Ah, et d'ailleurs là il y a un nid là, un nid entier de chenilles. Du coup, moi j'utilise les fleurs et feuilles, partie aérienne on va dire, en tisane. On peut presque les faire bouillir une minute ou deux. Et après, c'est une plante, du coup, l'aubépine, qui est anxiolytique, léger. Hein. Mais du coup, moi, j'utilise ça pour mon anxiété. Hop, j'essaie de m'arranger avec le micro. Ah oui, je me repositionne. J'ai mon petit panier. Je cueille dans un panier qui est accroché à une sangle autour de moi. Comme ça, je peux facilement décrocher les fleurs et direct les jeter dans le panier, enfin les poser. Ça m'évite de... Enfin, ça me... Ouais, je trouve ça plus pratique. Du coup, une plante contre l'anxiété. C'est une plante du cœur, en une manière générale. C'est-à-dire... Bon, j'aurais pas la liste en tête, mais pour plein de problèmes de cardiaque, c'est vraiment pas mal comme plante. C'est plutôt une plante qui va calmer. Du coup, c'est plutôt une plante qui va... Enfin, je crois qu'elle régule la tension dans les deux sens. Et plutôt, elle calme le cœur. Voilà. En rapide. Mais du coup, j'en cueille pas mal, parce que moi, j'en bois presque toute l'année. Pas tout le temps, hein. Je fais pas non plus des cures d'un mois et tout, mais j'aime bien le goût. L'aubépine, je parlais des épines tout à l'heure, parce que on peut se piquer. Tout à l'heure, je me suis piqué parce que j'ai commencé l'enregistrement, mais j'avais déjà commencé la cueillette avant en fait. Mais du coup, tout à l'heure, je me suis piqué pile poil à un endroit sur la main où j'avais une tension, et ça m'a presque fait du bien au final. J'étais en train de me demander si elle commençait pas de me guérir pendant la cueillette. Ce qui est le cas parce que, en tout cas pour moi, le rapport aux plantes médicinales, d'aller les cueillir moi-même et d'observer quand est-ce qu'elles vont être prêtes à être cueillies, du coup ça me fait faire des balades presque tous les jours. Bah c'est aussi, je prends soin de moi dans ce moment-là. C'est marrant de parler en s'enregistrant. Que je suis quand même seul avec les oiseaux sinon, et les chenilles. Il y a une vache derrière. Il y a une vache dans le champ derrière, elle a l'air d'être blessée, elle a été isolée des autres. Mais bon, elle marche. Elle a l'air de marcher. Et du coup, l'aubépine, une plante qui a des épines. Et le nom, je trouve, résume bien l'idée de la plante. En anglais, c'est la, j'aurais du mal à prononcer en anglais. En tout cas, en anglais, du coup, c'est le même, à la même association. Aube et épine. J'aime bien l'idée. Alors, est-ce que j'ai d'autres trucs à raconter sur l'aubépine? Ah oui, ah tiens, là, je viens de recraser un truc. Je sais pas ce que c'est. Hein. On raconte que sous les aubépines, c'est l'endroit où s'abritent des fées. Alors, je me rappelle plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais... Alors, c'est une raison de plus pour prendre soin de l'arbre, si on veut pas énerver les fées. Parce que bon, les fées, ça a l'air bien mignon, mais je pense que des fées énervées peuvent être assez badass. Du coup, tranquille la cueillette, on va pas couper les branches, on va pas... On prend soin. Dans l'idée, on peut même se dire qu'on peut parler à l'arbre qui m'aide, et si jamais un jour des gens ils veulent venir te raser pour faire un parking, bah peut-être j'irai les faire chier. Oui, l'idée quoi. Et ben moi je vais continuer la cueillette, mais je crois que je vais vous laisser. Je vous laisse profiter encore un petit peu du bruit des oiseaux. Et peut-être à une prochaine pour une autre petite session cueillette. Allez. À plus tard.
De retour sur Radio Virus, de retour dans les studios, mais pour continuer un peu dans cette ambiance très champêtre et compagnie, quelques questions à l'équipe. Alors, est-ce que vous préférez une question un peu générale, genre, c'est quoi votre rapport aux plantes? Et si vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ou des questions plus précises, en répondant à quelques mots.
Et on peut répondre, on peut comprendre les questions précises si on connaît rien aux plantes.
Ah oui, ça veut dire ouais.
C'est pas un questionnaire pour passer l'examen de
botanique.
Des
herboristes. Non.
Non.
Chaud quand même.
Alors ça va.
Du coup, question générale ou question précise? Ou les deux?
Ou les deux?
Alors, c'est quoi votre rapport aux plantes? Si ça vous donne envie de répondre comme ça.
Ben.
Yann?
Ben. Ha! Moi, je me suis rendu compte que j'étais incapable de prendre soin d'une plante. Ça, c'est un peu terrible. Une plante domestique.
Plante domestique.
Bah oui. Ouais. Mais sinon, sinon c'est joli quand même. C'est important autour de moi d'avoir des plantes. Enfin, autour de moi dehors de chez moi. Voilà.
Toi, Lola?
Vite fait. Moi, je pourrais en parler pendant des heures. Alors, j'essaie de faire rapide. Juste, je trouvais ça rigolo quand tu parlais de notre rapport aux plantes en général, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de diversité que là dans le morceau qu'on a entendu, il y avait ce truc de dire je connaissais une cueilleuse qui était en mode juste faire de la production quoi, et ben moi j'ai grandi dans une famille paysanne et qui est paysanne depuis très longtemps, depuis plusieurs générations machin, et donc je sens que j'ai ce rapport là quand même de... Bah, j'ai grandi dans un rapport, la plante, c'est un produit. Et en même temps, la plante, ça nous fascine, ça nous fait des surprises tout le temps. Puis il faut qu'on l'observe parce que c'est un produit vivant. Et puis en plus, en face de nous, il y a des gens qui veulent en faire un truc qui serait avant tout du fric. Et donc, on a envie de revendiquer que nous, notre rapport aux plantes, c'est pas juste un produit. Alors tout d'un coup, on se met à revendiquer des trucs... On n'avait pas l'habitude, voilà. Et puis, moi aussi, j'ai depuis évolué dans des milieux où j'ai déconstruit un peu ce rapport de plante-produit, mais je l'ai toujours par moment. Et je le sens que ça se mélange avec des trucs de... En même temps, il y a des fois, j'ai l'impression que faire du mal à une plante, je trouve ça hyper dur. Juste de la cueillir, par exemple, des fois. Et d'autres fois, juste, je suis dans un rapport... Ce que je veux, c'est produire à manger ou produire un médicament ou... trucs comme ça. Voilà. Ça se mélange, tous ces trucs-là.
Et toi, Cristal, t'as cette...
Eh ben, moi, je trouve que les plantes, c'est super.
non, mais c'est les plantes.
C'est vrai, c'est quand même... C'est quand même ce qui serait super, en fait, c'est que... Ah oui, mais non, je pourrais plus aimer les plantes dans ce cas-là. Bon, bref, ce que j'allais dire, c'était un monde où il y a des plantes et tout, mais il n'y a pas d'humains. Mais en fait, je pourrais pas apprécier ce monde-là. Mais bon, je peux l'apprécier.
En théorie,
l'imaginer me procure une sensation assez agréable.
C'est bon. C'est trop tôt pour faire des blagues sur le coronavirus ou quoi.
Non, c'est pas trop tôt.
C'est pas trop tôt. Ok, d'accord. Je la ferai à la prochaine émission, peut-être. Et maintenant, les questions précises. C'est un peu réponse.
J'avais pas fini.
Mais ah, pardon, vas-y. Vas-y, vas-y, Cristal.
Non, mais en vrai, j'avais pas grand chose à dire. Moi, c'est un truc que j'ai quand même grandi avec ça. Enfin, j'ai deux parents qui ont toujours été. Qui ont eu un rapport assez fort avec les plantes. Et est-ce que tout ce qui se passe dans un potager, ça rentre dans plantes ou pas? Ouais, 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 c'est plutôt.
Les tomates en boîte.
C'est des plantes, ça à la base. Oui, c'est vrai. D'accord. Du coup, mais j'ai un rapport assez distant parce que j'ai été. Mon père, il m'a forcé à travailler des plantes, à faire des trucs avec des plantes, enfin des trucs de maraîchage, voilà. Et c'était de la merde. C'est un connard, mon père, voilà. Et voilà. Du coup, ça fait qu'aujourd'hui, j'adore avoir des copines et des copains qui font des trucs avec des plantes. Et j'adore avoir des légumes que d'autres gens ils ont fait pousser et qui sont trop bien et trop bons et tout, c'est trop cool. Mais moi, j'ai vraiment pas envie de m'occuper de ça, par exemple.
Et Mona, toi, tu veux pas dire un truc sur les plantes?
Ah, allez. Ben si, après, du coup, c'est moi qu'on entendait qui cueillait l'aubépine. C'est vrai que c'est une question un peu dure à répondre comme ça maintenant que j'y pense. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que c'est récent dans ma vie, enfin, de quelques années, que je me suis mise à me rapprocher des plantes, et c'était très très lié, mais c'est enfin avec la question de prendre soin de moi par le biais de je bois des tisanes depuis très longtemps, et du coup quand j'ai arrêté de boire du thé et du café, je me suis dit ah tiens, j'aurais qu'à chercher des plantes à prendre en tisane le matin, et de fil en aiguille j'en viens à avoir et à lire des livres et tout, enfin ça me passionne et tout, mais je fais ça très tranquillement dans mon coin sans pression. Du coup, mon rapport aux plantes, c'est pas mal par le soin. Enfin, non. Quelle herbe ou plante va calmer mon mal de crâne ou va me faire baisser mon anxiété ou va... Je me suis coupé hier. Franchement, quand même, hier, je me suis coupé dans mon potager avec un sécateur sur le bout de mon doigt. Là, ça paraît bien guéri. Hein. On dirait que c'est une vieille blessure quand même. Alors qu'en fait, hier, elle pissait le sang. Bah, juste de arracher trois feuilles de plantain, de les mâcher et de cracher le jus sur la blessure. Dès que le jus a touché la blessure, ça a arrêté de saigner. Ouais. Parce que les tanins qu'il y a dans l'herbe, ça a fait se contracter la peau et ça arrête le saignement. Et là, j'étais là, stylé. Ouais, stylé.
Plante voilà. Badass.
Ouais.
Badass.
Enfin, une herbe que tout le monde a déjà vue sans faire gaffe. Et... Bref. Du coup, en tout cas, pour plein de trucs de soins, ouais, c'est principalement ça mon rapport aux plantes. Et que plus ça va, plus je connais des trucs et j'essaye de m'organiser pour faire des trucs bien. Et que voilà, souvent des gens ils me demandent des conseils. Après, j'ai très très peu le truc de. Je sais pas comment dire. Je partage très peu ça avec d'autres gens. Et du coup, de faire cette chronique là, cueillette, c'était hyper cool. Je crois que c'est une des premières fois où c'est moi qui direct prends l'initiative de partager des trucs sur les plantes comme ça.
Trop bien.
Bravo.
Et du coup, les petites questions, c'était un peu du style à partir des 5 sens. Là, comme ça, la dernière fois que vous avez vu une plante.
Maintenant, face de moi.
Ah ouais, cette petite plante d'appartement. Ok, bon, je pense que c'est valable pour tout le monde. Dernière fois que vous avez goûté une plante.
Il y a 30 secondes avec ta tisane.
Ouais.
Et avec le cannabis qui est dans mon joint, effectivement.
Le blanc qui est dans ma bière.
Ah ouais, pas mal. Les plantes sont partout. Hein. Ouais.
Bah, moi, c'était mélange de plantes dans une feuille roulée à fumer. C'était il y a, je pense, une bonne minute. Ah, quoique, j'ai peut-être bu une gorgée de bière depuis. Houblon plus orge.
Là, vous avez vraiment les coulisses aux émissions en direct. Hein. On ne s'attendait pas à ça. Dernière fois, on a fait quoi? La dernière fois que vous avez touché une plante?
Au rouleau bourgeois.
Toucher une plante vivante.
La cuisinante tout à l'heure, je pense.
Elle était encore vivante, la plante que tu as touchée. Ouais.
Je sais pas.
Moi, j'ai marché dans l'herbe pieds nus ce matin.
Stylé.
Eh ben, moi, je suis arrivé à pas si longtemps que ça, là, il y a 2 jours. Et depuis, je sais pas si j'ai touché une plante.
Bah, je sais pas quand est-ce que c'est une plante vivante.
C'est bon.
Là.
Ouais, je sais pas non plus.
J'ai planté un potimarron hier avant-hier.
Dernière fois, vous avez senti une plante ?
Dans son joint.
Oh la sang.
Arrêtez.
Le petit bouquet de fleurs qui est sur la terrasse, oui, il sentait trop bon quand même.
Oui,
c'était trop bien.
Et il nous reste quoi ? La vue, le toucher, l'odorat, le goût. Louis, la dernière fois, vous avez entendu une plante.
Ah, moi je pense que c'était en souvenir, hein, il y a 2 jours. Des arbres qui.
Ouais, je pensais au vent dans les arbres aussi. Ouais.
Mmh.
Ça, j'y pensais direct.
Ah ouais, t'as pensé direct au bruit de la plante, quoi.
Au bruit de cette plante-là. C'était bien.
Je saurais pas dire.
Ouais, si le vent dans les arbres, c'est sûr. Pendant l'orage, il y a quelques jours. Là. Le bruit même des petits grêlons sur les branches de l'arbre qui était à côté du balcon où j'étais.
Ah si, tout à l'heure, quand on a coupé les carottes, on les a entendus crier. Ça, c'était un petit...
Ok, elle est encore vivante.
Voilà, exactement. Ouais.
Ah, bien vu, toi.
Ouais, mais...
C'est une petite blague, hein, référence aux arguments anti-vegan, le cri de la carotte.
Eh ben, c'est tout pour les plantes pour aujourd'hui. Enfin, peut-être qu'il y aura des rappels en fin d'émission, mais on ne sait jamais. Et est-ce que là, on mettait de la musique, je crois
On met de la musique.
Ouais, c'est parti. Petite pause musique.
Allez.
Thank you.
c'était Neige de la trompettiste Erel Besson avec en featuring avec un guitariste Nelson Veras, si vous voulez les retrouver pour les écouter. Et ben on va enchaîner avec la partie sur qu'on avait annoncé tout à l'heure sur le zine Toutrage dehors. On va commencer par écouter une lecture de l'intro du zine avec une personne qui donne un peu son avis après sur le zine, qui apporte un peu des éléments sur ce que ça lui a fait, ce zine. Voilà.
Alors, présentation rapide d'un zine qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle « Toutrage dehors, vengeance, attaque, riposte et autodéfense contre le patriarcat et le monde qui le nourrit ». Je vais peut-être commencer par lire un peu l'introduction du zine. C'est quoi ça ? Des mots sur la vengeance, la revanche, l'autodéfense, l'attaque, la riposte. Une idée qui a émergé il y a 2-3 ans. Ça fait long. Des positions figées sur le papier, mais qui voudraient encore s'élargir, s'approfondir ou s'affiner. Ce zine vient de l'envie de partager des expériences contre le patriarcat là où il s'incarne, parce que moi ça me fait du bien d'en lire. Un appel à contribution a donc été lancé pour collecter les petites et grandes histoires de nos quotidiens qui parlent de la manière dont on a réussi à ne pas rester seul avec ces violences qu'on nous met dans la gueule. Celles qu'on a réussi à renvoyer avec rage et colère. Une envie de visibiliser ces moments pour se rappeler que c'est possible, mais aussi et surtout pour se donner des idées, des petits trucs et astuces qu'on a essayé et qui ont marché plus ou moins bien. Que ce soit pour rendre le crachat au harceleur de rue, ou que ce soit par de petites et grandes vengeances faites à un ou une personne auteur, que ce soit dans l'intime, dans nos milieux, ou dans des espaces plus larges. Une manière de faire vivre la riposte et la vengeance comme quelque chose de concret. La proposition s'ancre dans une vision anarchiste queer féministe, qui cherche à trouver les solutions en nous-mêmes et avec nos potes, complices et non dans l'appel à une quelconque institution qui existerait pour nous protéger ou qui chercherait à parler en mon nom. En plus des contributions, tu trouveras une partie sur des communiqués d'action qui ont été publiés en France. C'est, par là, une manière de connecter les actions contre les personnes, leurs actes et comportements, et l'attaque des structures, leurs discours et leurs projets. Une manière d'appuyer que ce qui se vit personnellement s'inscrit dans ce qui s'impose à tous, toutes, c'est le que les normes et les lois enferment. Ces zines s'ancrent aussi dans une vision qui cherche un chemin pour donner de la valeur aux luttes, insoumission et colère contre toutes les formes de domination, puisque le patriarcat agit dans le tissage d'un système répressif multiforme, le racisme, le classisme, l'agisme, le validisme, etc., qui encourage et contraint toute personne avide de liberté à suivre la marche absurde de ce monde de mort. Et c'est bien par l'écrasement des uns unes que règne l'ordre des autres, et nous n'avons pas tous et toutes les mêmes intérêts ni responsabilités en fonction de là où on part. Ma rage contre le patriarcat s'inscrit donc dans le refus global de l'autorité dont toutes les expressions sont à détruire. Aucune n'est à minimiser ni à hiérarchiser. Enfin, c'est aussi simplement écrire et diffuser pour essayer d'avancer dans la merde qui m'englue au quotidien. Soigner des blessures pas refermées. Une envie de participer à ce qu'on puisse s'en sortir et trouver, retrouver de l'autonomie, de la confiance et une soif de vivre et de se battre pour détruire ce qui nous détruit. Et pour qu'on puisse se redonner de la place pour occuper sa tête avec ce que l'on choisit. Et bien sûr, rien n'est simple. Et ça demande beaucoup d'endurance et de détermination pour envoyer balader les marques sur le corps et dans la tête. Rester en mouvement. Petite note sur la forme. Tu trouveras que le zine suinte du lien entre rage et violence, violence et destruction physique et ou matérielle. Mais ça ne veut pas dire que les seules actions stylées soient celles qui en passent par une certaine image de la violence. À chacun chacune, avec ce que les tripes en disent et ce qu'on se sent d'en faire. Et je ne voudrais pas que ça vienne invisibiliser ou dévaloriser d'autres formes, notamment celles qui mettent en jeu de ouf socialement et mentalement. Parce qu'il en faut du courage pour écrire, raconter, décortiquer, s'exposer aux critiques, écrire, raturer, puis recommencer, d'en reparler autour de soi, des lui, pour donner des billes sur des mécanismes de merde ou pour pousser les gens jantes à ne pas faire l'autruche. Et c'est pas rien de tenter que la personne auteur se sente pas si à l'aise à pouvoir se pavaner dans les espaces, en jouant sur un flou qui entoure souvent les grandes histoires d'agression. Les histoires d'agression. Je te souhaite que cette brochure te fasse du bien et te donne des idées, alors bonne lecture et que crève le monde. Du coup, ça c'était pour le texte de l'introduction du zine. C'est un zine qui regroupe des textes assez différents, et c'est ça que je trouvais pas mal. Il y a à la fois des textes personnels, quoi, des témoignages ou des personnes qui racontent un bout de leur vie à travers ce thème de la riposte. Des textes plus théoriques, on pourrait dire, plutôt qui essayent d'analyser des choses avec un peu plus de recul et tout ça. Et aussi quelques textes de revendication d'action contre le patriarcat et le monde autour du patriarcat. Du coup, mon avis général, c'est qu'il y a vraiment des textes qui m'ont fait du bien à lire. Il y en a que j'ai adoré, il y en a que j'ai pas trop aimé. Il y en a que j'ai bien aimé, mais qu'il y a des éléments qui me saoulent dedans, du style un texte en mode riposte, où c'est en mode pussy gang, on va casser des couilles et tout ça. Et bon, je vois bien d'où ça vient, cette image-là. Mais ça me saoule de voir des parties génitales associé soit d'un côté à de la violence et du coup il faut les détruire, ou d'un autre côté à de la fierté et voilà. Donc, bref, on pourrait peut-être dépasser ça par rapport aux images qu'on utilise pour les parties génitales qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais globalement, j'ai bien aimé la plupart des textes. Et du coup, je vous propose d'en lire quelques-uns.
Et avant la lecture, de retour dans le studio de Radio Virus. Est-ce que sur cette lecture de l'introduction, avant qu'on diffuse la lecture de certains des textes, est-ce que là ça vous donne envie de se lancer sur une petite discussion sur des moments dans votre vie où vous avez réussi ou vous n'avez pas réussi à réagir à une situation d'agression ou de transphobie ou de voilà, un truc un peu comme ça. Je ne sais pas si là ça vous évoque des choses. Ah, et que vous avez envie d'y aller direct.
Tiens, t'as l'air au taquet.
Oui, bien sûr, ça fait penser à plein de trucs. Moi, je pense que là, juste la fin, ça me fait direct me dire un peu certaines féministes qui se la jouent badass sur des trucs, ben, pour moi, c'est aussi des gens qui potentiellement m'ont fait du mal. Enfin, là, j'ai pas des personnes précises en tête, mais que du coup, c'est pas, il n'y a pas un ennemi commun qui serait les mecs cis hétéros, je sais pas quoi. C'est évidemment qu'il y a plein de rapports de domination, y compris au sein des luttes féministes, et de nos communautés, etc. Du coup. Voilà. Forcément, tout ça, ça fait un peu des fois des caricatures qui sont pas si. Enfin, qui sont des caricatures, donc c'est pas terrible. Quoi.
C'est dur hein, de partir direct sur ce sujet. C'est un peu peut-être notre marque de fabrique à Radio Virus, je pense. on réfléchit pas trop et on se dit tiens, la riposte face au patriarcat. Ouais.
Bah si, moi ça me fait penser à plein de trucs. Ça me fait penser au fait que en général plutôt je dis rien, je me tais. Il y a un truc assez fort de. J'ai encore perdu le mot. De si jamais il y a des trucs qui se passent pas bien, c'est parce que c'est pas assez évident pour les autres que je suis pas un mec cis ou un truc comme ça. Enfin, j'arrive souvent à me remettre la faute sur moi. Et sinon, ça m'arrive quand même très souvent que je fasse pas ça et que du coup je sois quand même assez sûr de moi. Et de. En fait, je reprends même pas les gens quand les gens me mégenrent. Du coup, sur les trucs en direct, je fais rien en général, j'ai l'impression. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a tout un imaginaire dans ma tête qui est assez violent. De... Ouais, je sais pas,
par exemple,
vous voulez de la souffrance, on va, vas-y, on va vous couper les jambes et puis ça va être super. Enfin, c'est de la merde, hein. Enfin, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de couper les jambes des gens, mais... Ouais, peut-être qu'il y a des gens quand même.
Mais est-ce que c'est dans le sens où il y a une situation, comme tu disais, que souvent tu dis rien ? Parce que moi j'ai l'impression que ça peut faire un peu pareil. Dans la situation que je vis, je subis le truc et je me cache et je m'enfuis. Enfin, il y a des dynamiques plutôt comme ça. Mais qu'après, j'ai un imaginaire de vengeance et de violence hyper violente qui. peut me faire faire des insomnies, enfin
oui, ou qui, juste qui hante en plus, ouais. Qui est pas juste un peu là quoi, que,
carrément.
Qui est quoi t'as dit?
Qui hante,
qui hante,
qui ouais. Reste dans la tête et qui tu fermes les yeux et ça part direct en mode. Des trucs de que même en rêve j'arrive pas à faire quoi, de taper des gens ou des trucs comme ça que je, dans la réalité évidemment on n'arrive jamais mais.
Non mais carrément.
Des fois malheureusement j'ai envie de dire. Je me souviens d'une situation il y a un an et demi dans un événement en mixité choisi sans mec 6 hétéro. Et il y a eu une scène un peu d'une copine féministe 6 qui. Comment est-ce que je vais raconter ça en deux secondes, qui m'a reproché à moi et à la personne avec qui j'avais une relation mais plus en fait à ce moment-là, qui nous a, et c'est une meuf cis, qui nous a reproché d'être un couple hétéro dans un événement en mixité choisi nanani. Cette personne sait parfaitement que je suis une meuf, enfin bref, et l'alcool, tout ça, et en gros ce qui s'est passé après c'est que déjà, j'ai mis des plombes avant de m'apercevoir de ce qui s'était passé. Et on n'a jamais reparlé. On a essayé vite fait, mais finalement, ça ne s'est jamais fait.
Quand tu as dit l'alcool, tout ça, c'est qu'au moment où...
Moi, je n'avais pas d'alcool. L'autre personne était alcoolisée.
Oui, c'est au moment où elle te balance tout ça à la gueule. Elle était alcoolisée.
Ouais. Ouais.
Et... Oui, non, vas-y.
Non, mais voilà, c'était... En vrai, je pense que cette personne a réalisé et a bien compris de quoi il s'agit. Mais vu qu'on n'en a jamais parlé... J'en suis pas sûr, mais j'ai pas de volonté de riposte en fait pour revenir sur le sujet. Enfin, j'ai eu beaucoup, hein. J'avais très envie à plein de moments de. Je cherchais des moments dans des endroits où on était toutes les deux là. J'avais envie qu'elle dise un truc nul pour que je puisse la clasher, quoi. Mais c'est nul, hein. C'est pas arrivé d'ailleurs. Mais...
Ok. Moi, ça me faisait penser à une situation il y a peut-être un mois là. C'était le début du confinement. Du coup, je pense déjà, j'étais un peu stressé avec tous ces trucs de contrôle de flics et tout, encore plus que d'habitude. Mais je me baladais vers chez moi dans la campagne, du coup en mode tranquille. Enfin, il peut rien m'arriver. Et vraiment, enfin, je pense que j'ai des périodes, des endroits dans ma vie où j'associe à des endroits où il peut rien m'arriver, genre chez moi ou je sais pas quoi. Et des endroits où je prends des risques, genre je sors de chez moi. Mais quand je me balade dans la forêt au milieu de nulle part, je me dis que c'est tranquille. Et là, il y a une voiture qui arrive, en mode voiture qui roule un peu vite, dans une route que je sais que c'est un cul-de-sac au bout. Je vois qu'il y a trois types dedans. Trois mecs blancs avec des coupes crâne rasé. Après, tout le monde a plus ou moins des coupes de crâne rasé en ce moment, même les hipsters et tout, mais... Enfin bref, en gros, c'est quand tu les vois arriver, ça peut être la caricature d'un groupe de trois faf, quoi. Dont ils sont dans une voiture, genre petite voiture un peu sportive. Le type, il voit bien que je suis au milieu de la route et il fait exprès de faire des espèces de zigzags pour faire plein de bruit. Il passe à côté de moi, le conducteur, il ouvre la fenêtre. Je sais plus comment j'étais habillé et tout, mais en tout cas, je pense à ce moment-là, il m'identifiait comme une meuf et il me dit un truc en mode drague. Genre, bonjour, vous êtes perdu, vous cherchez quelque chose. Et il n'a pas le temps de finir sa phrase, parce que du coup, à ce moment-là, il est à moins d'un mètre de moi. Et là, je vois qu'il a... Là, il se mange une incompréhension totale. Et il a un mouvement de recul et il fait des grands yeux, qui se traduit verbalement pour lui par un cri de dégoût. Et du coup, là, mon attitude, en fait, c'est pas de lui crever les pneus et de lui cracher dessus. Enfin, alors que c'est ça que j'avais envie, en fait. Après, j'avais une partie de mon cerveau qui était en train de calculer les risques. Enfin, parce que je voyais qu'ils étaient trois, je voyais que le passager... Enfin, il y a le passager, je voyais pas qui c'était. Mais le type qui était à l'arrière, je voyais qu'il avait l'air pas agressif. Bon, c'est rapide, mais... Alors que le conducteur avait l'air très, genre, en mode sûr de lui, en mode... je sais pas comment on dit, kéké et compagnie. Du coup, il a ce truc de cri de dégoût. Et moi, à ce moment-là, en fait, le truc qui vient, c'est de jouer l'incompréhension. De jouer, ah, je comprends pas pourquoi t'es dégoûté, qu'est-ce qui se passe. Alors je sais très bien pourquoi il est comme ça. Mais du coup, sur le moment, ça a fait un truc, je fais, hein, bah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Et en fait, je commence à reculer et à partir. Et je pars, et je pars, et dès qu'ils sont plus à ma vue, je pars en courant, quoi. Mmh. Et là, me rattrape le truc qu'en fait, je sais très bien pourquoi il était dégoûté. Et c'est... Là, ils se sont arrêtés là, ils ont conduit, ils sont... Je pense qu'ils cherchaient un coin tranquille au milieu de la forêt pour aller fumer des pets sans se faire chier, sans se faire emmerder par les flics. Du coup, ils m'ont pas couru après. Mais moi, c'était ça qui la peur. Et j'ai continué de courir, je suis passé à travers des ronces. Il se trouve que ce jour-là, j'allais aussi chourer du sable et des graviers, des trucs dans une carrière de Lafarge. Et du coup, j'étais un peu en mode chour. Du coup, j'avais un truc de stress aussi. Et je me dis, ah, je vais pas annuler mon plan chour pour trois bolos. Sauf que mon plan chour, j'étais méga stressé. Du coup, le moindre flip me faisait bader. Ce qui fait qu'à un moment, je suis aussi recouru me cacher dans un tas de ronces, quoi. Donc vraiment, j'étais en mode petit animal qui se cache des chasseurs. Bon, tout ça pour dire que le soir, enfin l'après-midi et le soir, j'ai essayé de me calmer, mais j'étais en mode, ah, j'aurais dû leur cracher dessus, j'aurais dû... ils étaient dans la caisse, du coup, ils pouvaient à ce moment-là pas sortir vite. Enfin, j'aurais pu leur cracher dessus et me barrer en courant, je connais bien l'endroit. Enfin, en fait, j'étais en train de faire plein de scénarios où j'aurais pu réagir de façon plus frontale au type. Mais tout ça pour dire qu'en fait, j'ai l'impression que ces scénarios, j'aurais dû, ils me font pas du bien non plus, parce que je les ressasse en boucle. Maintenant, j'arrive à identifier, du coup, je les laisse... Je me force à pas les laisser prendre trop de place. Voilà. Mais du coup, c'est un peu... Effectivement.
Et puis à chaque fois, dans ce genre de situation... Enfin, moi, je sais pas pour toi, mais... moi, ça me gèle. Enfin, dans le sens où mon cerveau, il se gèle. Pendant un court instant, il y a encore quelques petits circuits qui fonctionnent en mode survie, un peu les trucs que tu as dit, et évaluation du risque et choisir une solution appropriée. Et ouais, ça se gèle. Après, des fois, genre, là, je me suis acheté un super manteau tout neuf il y a quelques mois. Et la première fois que... Pas tout neuf, quand même, d'occasion, faut pas non plus exagérer. Quand on est pauvre, on achète rarement des trucs neufs. Mais première fois que je sors avec, et 3 minutes de marche dans une ville de quelques dizaines de milliers d'habitants, je me prends... Il y a quelqu'un qui... qui me gueule au travers de la place qui est assez grande. Travesti ! Travesti ! Et là, je les ai regardés, j'aurais fait coucou, coucou, un peu comme ça, un peu en mode je n'ai pas peur, regardez, je joue avec vos blagues pourries. Et sauf que après, je me retournais toutes les 10 secondes, je regardais derrière moi, enfin, c'était assez. Et cette journée-là, c'était ouf, quoi. Plein de gens qui ont essayé de me prendre en photo, je les ai vus, enfin, c'était. Je les ai regardés, je les ai vus partir en me regardant discrètement plein de fois. Enfin, c'était complètement ouf cette journée. C'était très flippant.
Le j'aurais dû, c'est clair que je le ressasse aussi souvent. Pas mal, ça m'arrivait plutôt en stop souvent.
Tu continues à faire du stop.
Je continue à faire du stop.
Non, mais c'est trop bien. Hein.
À donf. Je pense que le stop, j'y suis et je continue à y aller de manière progressive en termes de qu'est-ce que j'affiche, comment, qu'est-ce que j'assume, comment. Et donc, je pense que je suis souvent plus... Enfin, il y a un mélange de plus qu'avant. Il y a beaucoup de personnes qui me prennent pour plus jeune que je suis et ça leur a un côté rassurant. Et beaucoup de gens qui me prennent pour une bizarrerie et qui a un côté beaucoup moins rassurant. Voilà. Et des fois, ça fait tout un tas de trucs que je mets en stop. Des fois, c'est très furtif. C'est juste un regard d'une voiture qui passe. Et sauf qu'il y a un moment donné où je dis bon, je suis parano, mais il y a un moment donné où il y a quand même, en fait, il n'y a pas que le regard, il y a aussi la manière de ralentir et accélérer. Enfin, en fait, il y a plein d'indications en stop sur est-ce que les gens, enfin, qu'est-ce que les gens pensent en fait. C'est ouf, mais il y a plein d'indications et ces micro-indications, en fait, je les ai vues changer, je les vois changer. Et en fait, c'est des moments où j'ai en stop aussi, où y a certaines confrontations, j'ai pas pu les éviter, juste. Par exemple, je suis toute seule au bord de la route, il y a une voiture qui s'arrête avec une personne qui m'a identifié comme meuf et qui finalement, au moment où s'arrête, ne m'identifie plus comme meuf. Et voilà, il y a des trucs qui s'enchaînent avec ça.
Et Jean, elle te prend dans cet exemple ?
Dans les deux exemples, non. Dans les deux exemples que là j'ai en tête, les gens ne prennent pas. Et en fait, il y a un truc de je me suis pas vraiment senti en danger parce que en fait la personne elle savait pas quoi faire. Juste fini par me dire non, désolé, je peux pas te prendre quoi. Genre vraiment désolé, je peux pas te prendre. Mais c'est juste que moi ça me génère un truc hyper désagréable et qui m'impacte beaucoup pour la suite du stop. Et donc je me dis ah j'aurais dû. Et en effet. Ça aide pas toujours à avancer, mais des fois, moi, ça me fait dire « Ah, peut-être que ça va me... » J'ai l'impression que ça me crée... Je me crée des situations de « J'aurais pu dire ça », avec l'espoir qu'un moment, un jour, je le dise vraiment. et puis, un truc aussi faire sortir la colère... et donc me sentir légitime à être en colère et pas être juste en mode prostré. Parce que de toute façon, là, je suis sur le bord de la route, je vais faire du stop, il faut que je continue, et donc il faut que je trouve un truc pour continuer. Quoi. Mais ouais, il y a vraiment ce truc de, des fois, dans ces situations-là, me dire, ok, là, ça s'est bien passé. Après coup, je me suis senti en danger parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, je maîtrisais pas jusqu'où ça pouvait aller. Notamment une fois où les personnes se sont arrêtées pas pour me prendre, mais pour me faire des réflexions. Mmh. Et où là, je me suis dit, ok, là, ça s'est bien passé, mais en fait, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Donc, d'avoir peur après coup, et juste de me dire, mais en fait, ce qu'il me faut, c'est des, c'est des automatismes de réaction verbale, en fait, parce que de toute façon, je ne sais pas réagir autrement, et que même verbalement, déjà, mais juste quelques, je me dis, des trucs type punchline, quoi, à renvoyer selon la situation dans la tronche des gens. Et voilà. Et
t'as trouvé des trucs à partager comme astuces. Punchline ou...
Ouais. J'avais pensé à un truc, c'était la personne qui m'a dit là, je peux pas te prendre, désolé. Qui m'a dit non, mais désolé, frère, je peux pas te prendre. Lui dire ah, mais en fait, tu t'es arrêté parce que tu pensais que j'étais une meuf. C'est ça, tu m'as identifié comme une meuf, c'est pour ça que tu t'es arrêté. Et donc, si t'avais cru jusqu'au bout que j'étais une meuf, t'aurais fait quoi, en fait ? Hein ? T'aurais fait... Enfin, juste lui renvoyer dans la tronche que son attitude, en fait... À ce moment-là, j'avais aussi, je pensais au fait... Non, mais en fait, s'il m'avait identifié comme une meuf jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il aurait... Enfin, qu'est-ce qu'il aurait été capable... Ouais, voilà, c'était quoi son truc ? En fait, c'est juste, c'est une attitude de connard. Et en fait, c'est pas parce que tout d'un coup, toi, tu décides que je suis plus une meuf... que t'as moins une attitude de connard. Non, mais en fait, le truc que t'as fait avant, c'était aussi un truc de connard, en fait, de vouloir t'arrêter. C'était pas un truc sympa. Et c'était pas un truc, c'est pas... Enfin, voilà. Et pas forcément lui renvoyer dans la tronche de « Ah, ce que tu fais là, de pas finalement repartir, c'est un truc de connard », aussi de lui renvoyer dans la tronche. Mais en fait, c'était un truc de connard, ce que t'as fait déjà, juste de vouloir t'arrêter, en fait. Dans tous les cas, juste... Si c'est pour ces raisons-là, t'arrêtes pas, quoi. Trace ta route. J'ai pas besoin que tu t'arrêtes. Et je pense que d'autres personnes n'ont pas besoin que tu t'arrêtes non plus. Et voilà. Mais c'est juste... C'est un truc qui m'est mis vraiment juste après qu'il soit reparti. Et sur le moment, j'étais pas... Il y a ce truc, comme tu dis, de cerveau qui gèle, quoi. Et vraiment, c'est... dès qu'il est reparti, il y a tout qui m'est venu, quoi. Toutes les réflexions que j'aurais pu avoir. Et après, j'ai eu le truc de « j'ai peur, non, j'arrête d'avoir peur, ok, je reprends, il n'y avait pas de danger, il était encore plus mal à l'aise que moi. » Des trucs qui m'ont rassuré, quoi. J'ai essayé de trouver tous les trucs qui me rassuraient et qui faisaient que je me sentais pas en danger.
Et en tout cas, c'est sûr. Enfin, ce truc de punchline, là, moi, je savais que j'avais. Je pense que j'avais dû lire ça dans un zine d'autodéfense féministe. Mais c'était un truc. Enfin, en tout cas, moi, un truc que j'ai en tête. Mais je me demande si je l'ai déjà sorti en automatisme. Mais c'est peu importe ce que dit la. Ça marche dans un truc d'agression verbale, là. Mais peu importe ce que dit la personne, de dire. Ouais, et ta connerie, et de reprendre ce que la personne disait. Par exemple, là, le type, il dit. Ah, non, désolé, je peux pas te prendre. Ouais, bah moi, c'est ta connerie que je peux pas prendre. Mais c'est comme un automatisme de commencer par et ta connerie pour mettre un niveau d'hostilité. Et en fait, ça marche pour plein de phrases, de répéter ce que la personne vient de dire sous une petite virgule près, ça marche. Bref. Et le truc de le cerveau qui gèle, moi, en tout cas, j'associe ça vachement... Enfin, en tout cas, dans l'autre sens, une fois, mon cerveau, il n'a pas gelé. Et c'était tellement plus simple. Et je n'ai pas fait d'insomnie et je n'ai pas ruminé. Mais c'est qu'en fait, j'allais faire des choses dans une espèce de super-aide Carrefour Market. Je rentre dans le magasin. Pareil, peut-être j'étais en legging. Enfin, je pense que j'étais vêtements assez féminins, je ne sais pas quoi. Et il y a des types qui font leurs courses, un groupe de potes. Qui... Je vois qu'ils me matent. Je vois qu'ils parlent de moi, de loin, dans les rayons. Je vois qu'ils éclatent de rire entre eux. Je fais ok, j'ai capté ce qui se passe. Moi, je veux juste chourer ma bouteille d'huile d'olive et ma tablette de chocolat noir et rentrer chez moi. Du coup, je fais mes trucs, j'achète deux oranges et je sors. Et là, je sors et il y a le groupe de types qui m'attendaient et qui éclatent de rire. Et il y en a qui s'approche et dit « Ah, t'es un trave » ou je sais pas quoi. Enfin, et je pense qu'ils sont en train de, en mode, bon, peu importe. Et en fait, je pense parce que ce jour-là, j'étais bien, psychologiquement, tout ça. Mais en fait, j'étais beaucoup moins submergé par le truc. Et j'ai juste dit, ouais, bah, va falloir vous habituer. Et je suis parti, quoi.
Bien joué.
Et en fait, je pense après, j'aurais voulu dire un truc plus hostile. Mais en même temps, j'étais déjà fier de moi d'avoir réussi à répondre. Un truc qui montrait, enfin, qui disait oui. Plutôt que l'autre exemple que je disais tout à l'heure, là, dans la forêt, où je faisais semblant de ne pas comprendre. Et qu'en fait, j'avais très bien compris ce qui se passait. Enfin bref, mais c'est pour dire que le truc de cerveau qui gèle, j'ai l'impression, moi, ça joue beaucoup si je suis en forme ou pas dans ma vie à ce moment-là ou quoi.
Ouais, c'est cool d'entendre des trucs qui se passent bien, parce que du coup, moi, ça me fait penser à des trucs qui se passent bien aussi, ou en tout cas des interactions qui commencent mal et qui commencent sur un truc qui est particulièrement gênant pour moi, typiquement dans la rue, une bande de 10 personnes qui m'interpellent, nanani. Et en mode, je sais pas trop, genre, ah, t'es pédé, ou, mais t'es une meuf, ou t'es un mec, ou des trucs comme ça, mais un peu genre en mode, un peu ce foutage de gueule. Et en fait, de m'arrêter, et de causer, et de prendre mon courage à deux mains. Wow. Mais parce que je vois qu'il y a, en fait, je vois que c'est un espace que je connais, il y a mes potes qui habitent juste à côté, je peux partir en courant, À cet endroit-là, il fait grand jour. Enfin, à cet endroit-là, je suis un peu tranquille à ce moment-là. Et juste, je m'arrête pas non plus une demi-heure. Mais je réponds à leurs questions avec des trucs un peu que j'ai envie de répondre, quoi. Et bon, c'est pas... ça finit un peu en queue de poisson en général. Mais en tout cas, ça fait qu'il y a au moins des trucs qui peuvent être dits et des fois entendus au moins par une partie des gens. Ouais.
Ça désamorce peut-être aussi des trucs de tension, de violence potentielle, je sais pas.
À fond. Ouais. Moi, ça me met, en tout cas, dans une position plus... je me mets en mode « Ah, tranquille, on est juste en train de causer.
Ouais. »
Et du coup, ça fait que mon sentiment de peur, en moi, il disparaît, ce qu'il est, il est moins perceptible. Enfin,
ouais. Et moi, j'ai l'impression que ça dépend vachement de la situation. Parce que, par exemple, moi, ça m'est arrivé, peut-être je pourrais raconter juste après, mais pareil, je suis à la station de métro la plus passante de la ville où j'habite. J'attends quelqu'un que je connais pas, qu'on m'a juste dit qu'il était queer et qui débarquait dans la ville et que on nous a fait nous rencontrer pour que je lui présente vite fait des trucs de la ville, quoi. Et il y a un groupe de types, enfin je sais pas quel âge, 20, 20, quoi. Et je vois qu'ils parlent de moi. Et en fait, ils viennent me voir et ils me demandent « Ah, t'es un garçon ou une fille ?» Et par exemple, même si c'est relou comme question, en vrai c'est trop chiant, mais au moins, il y a une attitude qui n'est pas du tout la même qu'un cri de dégoût. Que le type que. Enfin, vraiment, voir quelqu'un et faire un cri de dégoût, c'est quand même un niveau de. Enfin, je trouve ça vénère. Que même si la question, t'es un garçon ou une fille, je trouve ça trop nul comme question, là, au moins, le groupe de personnes, ça se voyait qu'ils ne comprenaient pas qui j'étais. Et leur manière de. Enfin, bon, je trouve ça chiant. Sauf qu'à ce moment-là, moi, j'étais là à poireauter, à attendre une personne que je ne connais pas. Ce truc que je sais, c'est qu'elle est queer. Il y a ces gens qui viennent me voir. Je pense que ce jour-là, j'étais en forme. Et je leur dis non, mais c'est pas si simple que ça. Enfin, je réponds pas trop et tout. Et en fait, ils étaient tous habillés en survêt de foot. Enfin, en mode. Je sais pas, tu sais, le maillot de foot du PSG, de Barcelone, de l'OM et tout. Enfin, des équipes de foot et tout. Et celui qui me posait les questions, celui qui faisait un peu le malin à venir me poser des questions par rapport aux autres qui disaient rien. il avait, je ne me rappelle plus les équipes de foot, mais c'est genre, il avait le maillot de foot de Barcelone et le pantalon du PSG, tu vois. Et je lui ai dit, bah...
C'est un genre de trouble dans le genre.
Ouais, en fait, je me suis dit, mais regarde, c'est pas si simple. Toi, ton équipe de foot préférée, c'est le PSG ou c'est Barcelone? Et là, là, il bug. Et là, il a peut-être un truc de dysphorie de supporter de foot. Je sais pas si ça passe. En tout cas, je pense qu'il comprend. Et il commence à s'embourber, à me répondre. Et là, c'est ses potes qui se foutent de sa gueule. Et en fait, ça marche. Et là, il me demande ce que je fais là. Et je dis, bah, j'attends une personne. Et il me dit, ah, mais t'attends un mec ou une meuf? Parce que je pense que ça les aurait aidés à me genrer. S'ils savaient qui j'attendais. Pas de chance, j'attends une personne queer. Je peux pas leur répondre, j'ai pas l'info. Et je leur dis, bah, en fait, j'en sais rien. Et là, il se trouve qu'à ce moment-là, il y a la personne que j'attends qui arrive, qui est genre pas genrable.
Yes.
Et là, ils sont... Ça les a tués, quoi.
C'est chiant.
Mais effectivement, je trouve ça quand même bien de se rappeler des anecdotes où même si c'est un peu la loose, ça se passe bien. Ouais, et ça me fait rire de raconter ça, parce qu'en vrai, je l'ai pas mal vécu. Je pense le fait qu'ils étaient pas menaçants, que c'était dans l'espace public, et enfin, dans un truc où ils étaient pas du tout dans un truc de... Bref.
Bien. Ça fait trop plaisir d'entendre des trucs comme ça. Moi, j'aime bien aussi ce genre de petites interactions. On écoute.
On écoute de la musique.
Allez.
On raconte d'autres histoires qui sont
juste après.
Bien, peut-être, tu vois.
On verra.
Pour continuer, on écoute. Ça va être très court. Ça va être très rapide. Deux morceaux de un groupe qui s'appelle Closet Burner. Donc en français, les brûleurs de placard. Un groupe queer. Et voilà. Et ça parle de détester les hétéros, je crois, un truc comme ça.
Radio Virus, de la musique mieux crenant le s.
Oh, la troisième fois qu'on l'a, celle-là.
Bah, c'est pour qu'elle rentre dans l'esprit des gens. Un peu une marque de fabrique, non, si on varie tout le temps.
C'est ta première, Lola, du coup.
Ouais, s'il vous plaît, soyez indulgente.
Avec nos deux émissions, on en a de l'expérience.
Et ben, on va enchaîner avec deux sons qui sont la lecture de ce texte de Tout rage dehors, le zine sur lequel on se base là depuis tout à l'heure pour discuter. Un texte qui s'appelle Hier et un texte qui s'appelle Fière, forte et en larmes.
Hier. J'ai frappé un mec dans le tram, hier. J'ai fait ce que tant de fois j'avais rêvé. J'ai frappé un mec et je pensais que ça me soulagerait. J'ai frappé un mec qui m'a touché, a touché. Puis, c'est permis de commenter. Mon allure de dégenré. J'ai frappé un mec et je ne l'ai pas raté. J'ai frappé ce mec et je ne me sens pas soulagé. Je suis fier, mais j'ai la rage. Cette boule de feu qui monte et descend, du ventre à la gorge, qui ne s'éteint pas, alors que j'ai frappé. J'ai fait ce que mille fois j'avais imaginé. Pourtant, la situation terminée et l'agresseur dégagé, je n'arrive pas à me calmer. Mon cerveau va exploser. Je ne cesse d'imaginer marée de sang et dents cassées. Tout ce qui n'est pas arrivé, j'en ai pas eu assez. Il aurait fallu le tuer, le broyer, le massacrer. Je commence à réaliser. Ma rage contre ces connards ne peut être apaisée. J'ai juste élargi mes façons de riposter. Mais peut-être qu'enfin je finirai de contre moi la retourner, cette violence qui fait vriller. Et qu'enfin je finirai de sans cesse me ressasser si seulement j'avais frappé. Fière, forte et en larmes. Fuck, je les emmerde, je suis vénère. J'ai envie de péter des trucs. J'avais envie d'y rester à cette soirée, mais merde, j'ai plus d'énergie. Dès que je suis arrivé, c'était fini. Je jette un œil dans la pièce et je déchante. Une assemblée de 40 personnes et moi. Je ne vois pas d'autres meufs trans. Je bug. Pourquoi pourquoi j'avais pas anticipé ça. Et en plus, je suis venu seul, merde. J'avais pourtant hâte à cette journée et à ce concert, j'avais hâte d'être avec mes nouveaux barésis pour leur mettre plein la vue. La journée avait même commencé de façon marrante. Au feu ! Mes voisins, voisines, entendent, qui crient au feu pour tester la solidarité dans le quartier. Et quand je rapplique en courant avec mon extincteur, j'ai vu une lueur dans leurs yeux, en mode « Waouh, merci, oh, désolé ». Émotion forte. On se prend dans les bras. « T'es une vraie », me dira l'un d'entre eux, Elle. Je traîne un peu avec Elle. Du coup, je suis en retard et je suis de me préparer. Aujourd'hui, j'ai envie d'être belle, forte, fière. J'ai envie d'imposer mon style. Je vais une discute contre la tôle et qui veut parler des TPG en tôle. Je m'épile rapidement les sourcils, je me rase, je me maquille. Fard à paupières gris scintillant, bordeaux mat, mascara. Et un rouge à lèvres assorti avec le bordeaux. La veille au soir, j'avais déjà choisi comment m'habiller. D'abord, mes nouveaux barésilles. Je les ai chourés il y a 2 jours. J'aime bien leur maille fine. Je mets de grosses chaussettes noires que je remonte jusqu'au-dessus des genoux. Ils caillent. Ma mini-jupe noire que j'ai découpée dans une robe. Il y a de discrets faux diamants qui scintillent cousus dessus. J'enfile un petit haut sexy, pour moi, une polaire et mon sweat à capuche noire. Je mets mes chaussures en cuir montante. J'hésite à cause du froid, puis je sors mon petit blouson noir. Un bonnet, une écharpe et une paire de gants pour compléter ma tenue contre l'hiver, au moins pour le haut du corps. Je mets mon thermos dans mon sac et je file en oubliant de finir ma tasse de sauge. Je trace en vélo, je peux être trop en retard. J'ai rien dans le ventre, mais l'adrénaline du « au feu » de tout à l'heure me pousse toujours. Je dois traverser le centre-ville et les regards des hommes cis blancs m'agressent. L'assortiment mini-jupe barésille semble faire scotcher leurs yeux sur mon entrejambe. Ouf ! Je suis en vélo, ça me protège, je trace. Je crache quelques molars pour me vider le nez et extérioriser ma colère. Ils me matent. Bien sûr, dès que l'on est à moins de 5 à 10 mètres, alors que je les fixe dans les yeux, ils finissent toujours par regarder mon visage. Et là, toujours, leur regard de mateur ahuri se transforme en une petite grimace de la bouche, froncement de sourcils en prime. D'un coup, ils ne sont plus sûrs d'avoir maté une meuf. Je maintiens mon regard, fixe, droit dans les yeux, parfois jusqu'à ce qu'on se croise à moins d'un mètre l'un de l'autre. Puis ils finissent toujours par détourner le regard et regarder par terre. Ça m'énerve tellement et en même temps, ça me fait un peu marrer de les voir en déroute face à mon genre. Mais ça m'use, ça m'énerve. Je dois traverser tout le centre-ville et chaque regard à soutenir me pèse. Je veux pas regarder dans le vide loin devant pour les ignorer. Je veux les mettre face à leurs conneries. Alors je soutiens leurs regards, les uns après les autres. 1, 2, j'ai froid. 3, 4, je pédale de plus en plus vite. 5, le froid me glace les genoux. 6, 7, 8, j'ai pas envie de m'arrêter à ce feu, je le sens pas. 9, 10, être immobile me fait sentir vulnérable. 11, maintenant le froid me brûle les genoux. 12, j'ai hâte d'arriver dans le bar. 13, 14, je me dis qu'une fois là-bas ça va être tranquille, une ambiance alliée. 15, presque arrivé. Je vois le bar où a lieu la discute. Je suis stressé. Je pensais pas que sortir en barésie, ma première fois, serait aussi dur. Je descends de mon vélo pour l'attacher. Une personne sort de l'immeuble juste devant moi. Ouf, une meuf. J'aurais pas un regard de plus à soutenir. Y a pas que les mecs cis blancs qui matent chelou, mais c'est leur regard les plus insupportables. Et c'est ceux que je veux affronter le plus, pour pas les laisser passer. Je soupire une dernière fois, et me dirige vers le bar à pied. Je vois un pote PD devant, ça me rassure déjà. Je rentre. Dans la première salle, seules quelques personnes, dont le patron, que je regarde à peine. Je vais vers la grande salle où il y a la discute. Premier choc, la salle est bondée. Une personne parle pendant que tout le monde écoute. Un type qui est sur le seuil se retourne et me dévisage de la tête aux pieds. Merde. J'ai pas eu le réflexe de soutenir son regard pour le confronter. J'ai laissé tomber ma garde en rentrant ou quoi? Je l'ignore. Il se pousse et je prends sa place sur le seuil de la salle. Deuxième choc. Il n'y a pas de meuf trans visible dans la salle. Quelques gouines, un peu moins de PD, pas de folle visible. Merde. Qu'est-ce que je peux être naïve? C'est pas du tout un espace tranquille. Et j'ai déjà baissé ma garde. La moitié des personnes de la salle bug sur ma gueule. Vous savez comment on jette un regard quand une personne rentre dans une pièce? Ben là, c'est pareil. Sauf que la moitié des regards restent accrochés sur moi, de façon plus ou moins discrète. Parce que tout le monde sait que ça se fait pas de dévisager. Ça me fait bugger. Je bouge plus. J'essaye de réfléchir à une solution. Casse-toi d'ici! Me crie une personne dans ma tête. Et une autre me dit « Emmerde-les, prends la place comme si de rien n'était ». Ces deux voix contradictoires me font bugger. Je passe en mode pilote automatique, soumission sociale. Le regard vide, je m'assois dans la pièce, sans croiser aucun des regards. Je suis dans une bulle. Je fixe un point dans le vide en face de moi pour me poser un peu. Soupir. Au moins, je suis au chaud. Je fais un tour de la salle avec mes yeux. Je réalise que ça va être dur de soutenir tous ces regards qui me dévisagent, en croyant discret. Je suis à peine ce que raconte la personne qui parle. Je remarque une autre meuf en barésille. Ça me fait plaisir de ne pas être la seule. De temps en temps, je trouve la force d'affronter un regard et de mater la personne du regard. À d'autres moments, je raccroche à ce que dit la personne qui parle. La plupart du temps, je fixe un point dans le vide. Les personnes que j'ai matées du regard n'osent plus me regarder. Et c'est très bien comme ça. C'est une vraie lutte du regard qui a lieu, mais ça a l'air d'épuiser que moi. On va bientôt entendre des témoignages de prisonnières, cis et trans. Et ça m'énerve d'avoir à entendre ça en mixité avec toute cette hostilité autour de moi. Les gens jantes veulent capter ce que ça veut dire quoi, être une meuf trans en prison, alors que personne a l'air de capter ça veut dire quoi être une meuf trans dans cette salle. Commençons par le commencement. J'enrage intérieurement. Je passe en mode combat et je soutiens tous les regards. C'est incroyable comment la colère me donne cette énergie. Chaque regard y passe, les uns après les autres. Fuck you, rince-toi l'œil sur internet si t'as jamais vu de meuf trans, connard. Mon regard traduit mes pensées. Je m'épuise, je m'efforce de rester impassible et de ne pas baisser le regard. Je suis incapable de m'énerver, incapable de partir. Je suis sûr qu'il est dur de deviner ce qui se passe pour moi. L'écoute va commencer. La salle se réorganise et une dizaine de nouvelles personnes rentrent dans la salle. Merde, de nouveaux regards à mater. Je passe plus rapidement sur la suite, mais c'est la même ambiance, la même galère. Pendant l'écoute sonore, je suis en mode bug, à fixer le plafond. L'écoute est finie. Vite, faut que je me casse d'ici. Fuir. Ça me fait du mal, cette ambiance. Une personne en moi a trop mal pour rester plus longtemps. Mais j'ai pas l'énergie de bouger du canapé, sur lequel je vais finalement rester assise 5 heures. Je ne peux pas montrer mes vulnérabilités. Même aux personnes que je connais qui sont là. J'ai trop peur de m'effondrer. Alors je fais tout pour cacher que je suis trop mal. Aussi, une autre personne en moi veut rester. Les emmerder, ne pas fuir et riposter, pousser une gueulante. Entre ces deux tendances en moi, j'alterne entre regarder dans le vide pour me protéger et mater les mateurs. À chaque fois que de nouvelles personnes arrivent, ça recommence. Regard hostile, riposte, par le regard, mais je m'épuise. Deux types me dévisagent encore. J'hésite lequel regarder dans les yeux. Je sais que je n'aurai pas le temps de mater les deux. J'opte pour le premier qui m'a dévisagé. Il tourne son regard. Yes! J'en peux plus. Je dépense toute mon énergie pour ne pas laisser transparaître que je suis à bout, que leur hostilité a de l'effet sur moi. Je fais comme si j'étais invincible, forte et fière. C'est dur d'être une meuf transvisible. J'essaye de me féliciter en me disant que ma visibilité fera peut-être du bien à une meuf trans, à une femme, à des trans qui s'ignorent et qui sont là. La discute est finie. Tout le monde se barre, je respire un peu, quel soulagement. Il n'y a plus que 3 autres personnes dans la pièce, tout le monde est dehors. Je décide de rester pour manger et voir après si je vais au concert ou pas. Mais encore de nouvelles personnes arrivent, j'ai de moins en moins d'énergie. Je n'arrive plus à affronter les regards, à riposter. Je vois une table entière me dévisager et parler de moi. Je me sens comme une merde, j'arrive plus à lutter. Je lâche l'affaire, je suis brisé. Je pleure à l'intérieur, mais j'arrive pas à montrer cette faille à l'extérieur. Je prends le temps de finir soigneusement mon assiette jusqu'à la dernière graine de courge, pour pas montrer que je pars, parce que leurs regards m'ont atteint. Je suis à bout et hors de question de craquer ici. D'autres personnes arrivent et me dévisagent encore. Je me résigne à partir, à ne pas aller au concert qui a l'air trop bien, pas la force de tenir, plus c'est d'affronter toujours de nouveaux regards. Et je me dis que je vais aller au bar trans dans un squat pas loin, pour débriefer avec des potes. J'enfile un jogging, mais sur mon vélo, je me rends compte que je vais vraiment pas bien. Je suis à bout de force, je rentre chez moi direct. Ça m'énerve encore plus que cette 6-6 ambiance de merde, mais même enlever l'énergie de voir mes potes trans. Je trace direct chez moi. La nuit me protège des regards. Chez moi, je bug longtemps. Je mange et me fais une infusion tilleul lavande pour essayer de me calmer. Je refais le fil de la journée dans ma tête et j'enrage. Je ne vais pas réussir à dormir. Alors j'écris dans mon cahier tout ce qui s'est passé aujourd'hui pour le sortir de ma tête un peu. J'écris pendant 3h30. J'ai mal au poignet. Je me sens soulagé. Je l'écris pour moi, pour pas oublier, et pour vous les copines. Je me dis que je devrais jamais retourner dans ce genre de truc seul, et en même temps, j'ai pas envie de me mettre de limites. C'est eux le problème. Je réalise quelle force doivent avoir les meufs trans que je connais qui sont hyper visibles, quand elles interviennent publiquement, de par leur assaut ou autre. Je pense à vous. Je ferme les yeux, je réfléchis un peu à ce que j'aurais pu faire de plus, quel coup de gueule j'aurais pu pousser pour moins visibiliser ma situation à ces fucking 6. Mais ça aurait été au prix de montrer une vulnérabilité et j'avais pas la force. J'ai pas envie que ça m'empêche de remettre mes barésilles. Je verse encore un peu ma colère dans ce cahier en écrivant ce que j'ai pas eu la force de leur dire. Puis je m'effondre en sanglots, en pleurs. je fonds en larmes. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Fière, forte et en larmes. Ce regard, je les vis tous les jours. Pas tous les jours de façon aussi intense, mais je n'ose pas sortir mes barésies aussi souvent que j'aimerais. Alors voilà comment je riposte à ces regards qui m'agressent, comment ça me rend fier, comment ça me renforce de les voir baisser les yeux, et sur comment j'ai un contre-coup après parce que ça me brise aussi de vivre tout ça. Je rêve d'aller plus loin dans la riposte, verbalement, physiquement, mais c'est dur. C'est dur de gérer ces vulnérabilités. Je regrette rien, au contraire. J'ai fait baisser le regard à une quarantaine de batteurs. J'ai réussi à rester plus de 5 heures dans cette ambiance de merde. Waouh, bravo.
Eh ben, de retour avec nous sur Radio Virus, avec Crystal, Diane, Moana et Lola. Faut réussir à enchaîner après derrière ça.
Bah moi, je suis séché en tout cas.
Ouais.
C'est-à-dire.
C'est intense. Enfin, c'est. Je sais pas, ouais, ça. J'ai l'impression que chaque chose que t'as dit, j'avais des images de ma vie à plein de moments. Et après, il y a plein de moments où je vis pas les choses pareilles et tout, hein, c'est clair. Mais à chaque fois, là, je pouvais trouver des exemples de trucs. Et du coup, ouais. Ça te donne un peu envie de tout cramer. Voilà. Hein, voilà.
Grave.
Eh ben, c'est dommage parce que, en vrai,
on n'a pas le droit de sortir, on peut pas tout cramer.
Non, c'est, non, mais, enfin, moi aussi, ça me donne envie de tout cramer. Enfin, et de toi, ce truc qu'on parlait là de rumination, de violence absolue, enfin, de destruction de tout quoi. Et ce que je disais, c'est dommage en mode blague parce que si je regarde ma petite fiche programme, c'est marrant, j'ai pas écrit. Comment s'organiser pour tout cramer? Mais en fait, en vrai, ça peut m'intéresser qu'on parle de ça. Pour vous dire, c'est que, à tête reposée tout à l'heure dans la cuisine, on s'était dit, je proposais que là, on parle de tiens, qu'est-ce qu'on aurait comme idée pour améliorer le monde dans lequel on vit?
Mais tout cramer peut être une solution.
Ouais. Non, mais du coup, là, ce que je me rends compte avec ce truc, c'est que. La partie de moi qui veut tout cramer, tout détruire et qui veut buter des gens, et ben en fait, c'est celle qui est tellement émotionnelle que quand je réfléchis, elle n'est pas là. Enfin, et je pense que c'est d'ailleurs elle qui me submerge émotionnellement des fois. Hein, mais... Et du coup, moi, ça me donne envie là, qu'on parle de nos envies de tout cramer. En vrai. Ça me donne plus envie, là, tout de suite, après ce texte, que de discuter de nos idées pour faire de la pédagogie des gens, pour améliorer...
Oui, c'est clair.
Oui.
Du coup, non mais c'est vrai. C'est...
Non mais et je pense vraiment d'ailleurs que ce zine tout rage dehors. Enfin c'est tout rage dehors quoi. C'est pas.
Ouais mais ouais. Ouais, vas-y. Franchement moi ça me fait un truc de améliorer le monde. Bon c'est un peu bizarre parce que je pense que si j'y croyais vraiment pas, je suis pas sûr que je serais encore là. Mais quand je réfléchis calmement, j'ai quand même pas trop d'autres solutions que de faire disparaître l'humanité. Enfin j'arrive. Enfin, je crois pas que la plupart des gens va devenir sympa, quoi. De mon vivant, en tout cas, du coup, bah.
Non, moi, la plupart, non. Moi, personnellement, je pensais plus à un truc de les gens autour de moi. Enfin, je pense pas, il y aura pas de révolution. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais.
Bah, surtout pour les queers, quoi.
Moi, je pense qu'il y aura pas de révolution qui me convienne, qui aura lieu dans le monde. Enfin. Et même s'il peut y avoir des bouts de trucs chouettes qui se passent, qui ressemblent à des révolutions à des moments. Mais... Et ben, d'ailleurs, en vrai, peut-être... là, si vous avez des idées sur la thématique tout cramé, allez-y. Et sinon, moi, ça me va de prendre le zine et de lire des... Parce que dans le zine, il y a aussi des revendications d'action qui sont plus dans la logique tout cramé que comment apprendre aux gens la vie. Du coup...
Ouais, moi ça, je sais pas. Moi, je sais pas si j'ai des trucs à dire sur tout cramer, même si évidemment ça me fait très envie. Mais en tout cas, ce que ça me fait penser par rapport à plusieurs trucs qu'on a dit depuis le début, c'est que j'ai l'impression que pour moi, les moments où j'arrive à répondre à un truc, c'est le moment où je suis pas seul. Clairement, quand t'es seul, c'est chaud. Enfin, bon, ça me paraît compliqué, plus compliqué. Et du coup, ben, là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression des trucs qui reviennent de comment t'es seul pour affronter un truc ou pas. Moi, de par exemple, il y a un truc très clair dans ma tête, c'est que de la manière dont je m'habille, elle dépend de est-ce que je vais sortir seul ou pas. Et bah, la manière dont je réponds à des trucs, elle dépend aussi de mon degré d'alcoolémie, mais et pas mal de est-ce que je suis seul ou pas. Et le fait de tenir tête à des gens en étant vénère, pour moi, ça, pour parler de trucs un peu plus positifs, enfin, ils vont plus qui donnent plus de la force et tout. Moi, je trouve que quand même, ça vient aussi de là, quoi, genre. Et du coup, ça me fait penser que sans doute, on serait encore plus sexy, encore plus badass à être à plein, enfin, à être en crew, quoi. Ouais. Même si évidemment, dans la vie, on peut pas tout le temps être en crew. Je sais pas, ça dévoue.
Moi, c'est.
Ça peut donner de la force à des moments, je pense.
C'est ça aussi que j'entends dans truc de améliorer, je sais pas trop quoi là. C'est tu vois, dans le texte là qu'on entend, il y a un truc de t'arrives en pensant que tu vas pas être seul et puis tu l'es en fait. Et juste il y a un moment donné où là c'est trash et je sais pas en fait, moi je me dis mais comment faire pour qu'il y ait des situations où je sois pas seul, parce que j'ai l'impression que c'est là justement que j'ai de la force. Et oui, je vais pas tout le temps être avec un crew un de voilà, un gang de potes trans pour me sentir bien. Et en vrai, c'est aussi comment faire pour que rien que rendre le monde autour de soi un peu moins hostile. Des fois, c'est même pas faire en sorte que les gens soient particulièrement soutien, c'est déjà faire en sorte que il n'y ait pas chaque regard, chaque personne, chaque sortie, chaque qui soit une espèce de lutte, et plutôt en mode de bah là, ce que je vais faire, oui, les personnes avec qui je vais être, c'est pas spécialement des soutiens, mais je sais qu'elles vont pas me faire me sentir mal, et donc je vais pas être dans un mood hyper hostile où juste je sens que je peux pas réagir, et voilà, enfin. Et j'ai l'impression que, oui, en effet, il y a le truc d'avoir des os pour le micro. J'espère que ça va pas être trop chiant à mixer, envie de tout cramer, et parce que ça peut quand même être une solution. Et le truc de améliorer, ouais, non, moi, il n'y a pas un truc de « Ah, non, mais en fait, faut pas tout cramer, c'est mal, et plutôt, on va essayer d'améliorer son prochain, d'amener sa goutte d'eau et puis de faire que le monde va mieux, mais juste d'être dans des environnements moins hostiles, quoi. Et ça, j'ai l'impression que même des fois avec des potes dont on est proche, des potes cis dont on est proche, on peut réussir sous certains aspects à ce que ce soit vraiment moins hostile, voire que ce soit des personnes qui nous soutiennent vraiment, et que si on n'a pas ces trucs pour que ce soit moins hostile, en fait, même dans nos réseaux de potes, des fois on peut se sentir hyper mal.
Ouais, de ouf.
Et sur ce que tu disais, enfin en tout cas c'est sur ce que tu disais, Diane, le truc de pas être seul, enfin c'est sûr que moi à plein de moments dans ma vie j'ai pu tester des trucs, des manières de paraître plus féminine, des vêtements, enfin parce que j'étais accompagné de potes trans PD win quoi, et que à plein de moments c'est trop bien, mais que en vrai c'est un peu dans le texte là. Quand je dis que j'aimerais bien continuer de pouvoir remettre des barésies et sans trop poser de questions, parce qu'en vrai, ce jour-là, je ne m'étais pas trop posé de questions, parce que je pense que j'étais un peu en mode warrior, et voilà. Et en fait, je pense que je n'ai pas remis mes barésies depuis, mais ça fait 2 ans, peut-être, ou 3, je ne sais plus, ça passe vite. Peut-être pas, peut-être 2, bon, bref, quelques années.
Tu les as pas mis au bal ?
Peut-être, si. Mais ce n'était pas les mêmes. Mais, mais oui, c'était. Mais bref, j'ai dû remettre une fois des barésies à une soirée queer. C'était mixte ou pas ?
Ouais,
c'était mix quand même. Mais j'étais venu avec des potes, effectivement. Mais fait que dans l'idée, enfin en tout cas, c'est un peu comme tout à l'heure quand tu parlais de stop. Qu'en fait, moi j'arrêtais de faire du stop parce que ça me saoulait trop et ça me prenait trop la tête. Je pense que ça me faisait trop peur aussi, les trucs de transphobie. Et qu'en vrai, moi j'ai pas envie d'arrêter de faire du stop et j'ai pas envie de faire arrêter aux meufs trans de faire du stop parce que moi ça me fait peur. Et c'est plutôt, enfin, comme là, j'aimerais bien avoir la force de faire des trucs seul, enfin, d'aller en soirée habillé comme je veux seul, mais qu'en vrai, à plein de moments, je vois bien que c'est dur. Et ouais. Non, mais en tout cas, c'est ça où je suis dans un espèce de truc où concrètement, il y a plein de moments où du coup, bah, ça fait que je mets un jogging plutôt que mettre des collants. Et en même temps, c'est une petite destruction quoi, intérieure.
De faire ça. Ouais, de ouf. Ça, c'est...
Et que sur le long terme, ça ne me fait pas plus de bien que tester des trucs seul quand même. Parce qu'en fait, encore une fois, ce jour-là où c'était trop chiant, mais en fait, ça m'a... C'est pour ça que cette histoire, c'est fière, forte et en larmes, c'est qu'en fait, elle est... Pour moi, c'est des trucs importants de ma vie. Hein. C'est au même moment où je comprends la force que j'ai et la faiblesse que j'ai. Mais je la comprends en même temps les deux. Mmh. Et la force et la faiblesse ne va pas l'un sans l'autre. Quoi.
Ouais.
Parce qu'en fait, j'étais hyper faible de tout ce que j'ai vécu qui était trop badant, mais hyper forte de, en fait, bah voilà, la vie continue. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment résumer cette idée, mais bon. Mmh. Bon, c'est pour dire que c'est une pièce à deux facettes. Quoi.
Et sur le truc du stop, j'avais un peu envie de réagir tout à l'heure, mais là, du coup, ça m'a fait me le dire encore plus de réagir. Ouh là là, cette phrase n'avait pas trop de sens. Bref. Moi, j'ai arrêté de faire du stop. Là. Enfin, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de stop que pendant plus de 10 ans dans ma vie. Et en fait, j'ai fait du stop avec des vêtements que si tu vois pas ma tronche, bah, tu te dis que je suis une meuf. Enfin, après, tu vois quand même que je mesure 1m90. Bon. Voilà, mais en tout cas, ça peut se met pas mal le doute. Et j'ai jamais rien remarqué de bizarre, chelou. J'ai jamais eu aucune expérience comme ce que vous avez pu dire, alors que j'ai quand même fait beaucoup de stops comme ça. Je sais pas trop comment ça peut jouer, mais il y a eu une longue période où. Ne m'identifiais pas moi-même comme meuf trans, mais plus comme truc chelou qui a pas l'air d'être un mec cis en fait, mais bon, je sais pas trop ce que c'est. Et du coup, peut-être ça joue aussi différemment de comment dans mon attitude je vis ou je sais pas quoi. Enfin bref, ce qui a fait que j'ai raté le stop, c'est d'avoir ras-le-bol de faire du stop quoi, mais. J'ai pas eu ces trucs-là. Quoi.
Ouais, c'est marrant parce que j'avais un peu la même expérience. À un moment donné, je sais pas, mettre des jupes courtes ou j'en sais rien, enfin tout un tas de choses qui associées à de la féminité et ne même pas calculer à quel point ça pouvait me mettre en danger.
Ouais, pareil.
Mais un truc de ouf. Et en fait, petit à petit, il y a un moment donné où il y a des trucs qui ont basculé dans ma tête et petit à petit, je pense, mais c'est, moi j'ai l'impression que c'est un peu la répétition des trucs qui fait que ça devient toujours plus menaçant, ça devient toujours plus relou ou plus intense à gérer émotionnellement. Des trucs qui sont, je sais pas, comme des insultes quand tu fais du stop, quelqu'un qui va t'insulter ou je sais pas quoi. Et aussi des fois de pas comprendre à quel moment, ça c'est un truc qui me dépasse aussi à chaque fois, à quel moment les gens ils captent quoi de toi et que tu sais pas trop à quoi ça tient. Et c'est un peu ce que tu dis en fait sur... Des fois, c'était là en mode, bah ok, bon, ce jour-là, il y a des gens qui lisent ça de moi, et il y a d'autres moments, c'est pas ça, et souvent, c'est jamais comme on voudrait. Hein. Genre, c'est jamais au moment où tu as décidé d'exprimer ou d'exposer certaines choses de toi. Mais ouais, c'est curieux ce truc-là. Et en tout cas, ça fait dire, enfin, en tout cas, quand je me suis rendu compte de ça, parce que je m'en rappelais même pas, moi, c'est des gens qui m'ont raconté. Je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, comment je m'exposais. Alors que maintenant, je flippe, mais juste quand je sors, je réfléchis toujours comment je me sors, parce que je sais qu'il y a... Et quand je me dis, allez, j'en ai rien à foutre, bah, évidemment, c'est là où je me prends un truc dans la gueule, et je fais, bon, bah, raté.
Moi, je me demande aussi, je me suis souvent demandé comment est-ce que mon imaginaire, il fait partie de ce qui me met en danger, enfin, d'imaginer des situations merdiques. Enfin, c'est bon, après, j'ai grandi avec des parents assez hippies et qu'avaient les deux un truc assez fort de ce que tu visualises qui peut t'arriver.
Ça va t'arriver.
Bah, pas forcément ça va t'arriver, ouais. Mais en tout cas, ça joue dans qu'est-ce qui peut t'arriver. Et voilà, du coup, moi j'ai l'impression en tout cas d'essayer de. Réduire au max m'imaginer des situations paranoïées, en gros, hein, ça me fait pas du bien, j'ai l'impression, en tout cas, de faire ça.
Bah ouais, moi je sais pas si c'est que ça va jouer, enfin c'est pas du style, c'est pas parce que tu penses à ça que ça va t'arriver.
Non, ouais.
Mais c'est sûr que moi j'ai capté que mon anxiété qui me fait anticiper les pires situations que je peux vivre, en fait elle me sert pas à mieux me préparer à ces situations-là. Enfin, que des fois je me, enfin maintenant je le fais presque plus, mais il y a des quelques temps je me laissais pas mal aller à imaginer des scénarios catastrophes où je me fais où il m'arrive tout et n'importe quoi, mais je meurs jamais, parce que si je meurs, il n'y a plus rien à imaginer. Mais en fait, ça ne me permet pas du tout de mieux me préparer. Mais en fait, plutôt maintenant, je leur laisse pas trop de place. Et pour revenir sur le truc de comment s'habiller, moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a plein de trucs qui ont pas mal bougé. Et que, à plein d'exemples très différents, j'ai l'impression que je vais faire un truc que c'est la première fois que je le fais. Et du coup, ça a trop de sens pour moi. Mais genre, la première fois que j'ai mis un patch rose sur un vêtement, enfin, genre, je sortais dans la rue avec l'impression que je sais pas quoi, mais que c'était ouf. Parce que pour moi, c'était ouf. Mais en fait, ça, les gens, ça n'a rien changé presque. Et par contre, je sais pas, sortir en legging moulant sans manteau ou sans haut qui couvre les fesses ou je sais pas quoi. La première fois, j'étais un peu en mode ah, quand même, qu'est-ce qui va se passer? Et ce jour-là, c'est la première fois de ma vie qu'un type il m'a suivi longtemps, en mode glauque. Enfin, il m'a suivi jusqu'à ce qu'il soit à un mètre de moi et que je me retourne et que je regarde et qu'il se casse. Enfin, en mode. Du coup, je me suis. Enfin, c'est pour dire qu'il y a des risques que j'imagine complètement. Il y a des risques où, en fait, effectivement, les vêtements qu'on met, malheureusement, ils jouent sur les gens, comment ils se comportent avec nous, tout ça. Et sauf qu'en même temps, à force de mettre le même legging plein de fois, maintenant j'y pense même plus. Mm-hmm. Et je me retrouve à faire des courses dans un supermarché et les gens ils se foutent de ma gueule, mais ça me paraît même plus grave. Mm. Enfin, c'est, ça a des trucs, ça change tellement des fois, c'est fou. Hein.
Mais sur les vêtements, c'est un truc de ouf, l'habitude. Enfin, moi, ça, c'est un truc. Ouais, la première fois que j'ai un nouveau vêtement qui a un style un peu différent de ce que j'ai d'habitude, il me faut quand même pas mal de temps. Avant de pouvoir le mettre, enfin le manteau, je reviens sur le manteau de tout à l'heure, ça a mis un peu de temps avant que. Et sachant que, toujours encore, enfin, chaque fois que je sors, il y a des trucs qui se passent avec des interactions chiantes. Mais en tout cas, je le vis mieux qu'avant. C'est pas moi qui ai pété.
C'est moi.
Ah bah super, Radio Virus, la radio qui.
Libère ton anus.
Qui libère ton anus, voilà, merci.
Ça sera pour une chronique d'une autre émission.
Ouais, voilà. Est-ce qu'on veut encore causer de ça, sachant qu'on a déjà 1h40 d'émission?
Je sais pas. Bien sûr qu'on veut encore en causer.
Mais oui, on veut en causer à l'infini. Je suis d'accord avec toi.
Et ben, du coup, on peut un peu mettre fin à ce grand chapitre de présentation d'usine.
Tu voulais dire un truc, Lola, ou...
Non, c'est bon.
Ok.
Je crois pas.
Et on peut lancer dernier extrait d'usine, qui est le texte de quatrième de couverture.
Et pour finir, le texte de la quatrième de couverture, un texte librement inspiré d'un texte de C. Rochefort. Je ne serai peut-être jamais une voyou, mais ça pousse, ça se bouscule à l'intérieur. Une poule dans une boîte à chaussures, une fleur de serre. Je serai une crapule sans foi ni loi, une brigande, toute griffe dehors, le regard curieux et vacillant, semant la pagaille sur mes pas, commençant tout, ne finissant rien, et complètement ailleurs. La pauvre est poète et boiteux et emmerdant le monde, et ne reproduisant pas la nature humaine, à détruire ceux qui m'attaquent, m'attrapent et m'en serrent, ceux, celles qui cherchent à mater à coups de fric, à coups d'ordre et d'humiliation, à détruire ce qui existe autour, sans croire qu'il y aura une fin. Le happy end où elles vécurent heureux. C'est dans cette merde que je baigne, avec vous tous, toutes, à mes côtés, et tant qu'à être là, je gratte les barreaux de ma cage. Je m'agite, j'hiberne, me pose pour réfléchir ou cuve la dépression. Abîmée, mais vivante.
I'm a
Radio Virus, pas une radio de focus.
Et voilà, on vient d'écouter Anticorpos, un groupe brésilien. Et le morceau s'appelait House Macho, je ne sais pas comment on prononce en portugais. Et voilà, j'imagine que ça parle de riposte contre les machos. Voilà.
Et pour finir, une recette de cuisine avec plein de plantes sous plein de formes différentes. Doum, doum, doum.
La recette d'aujourd'hui à vous partager, c'est le petit taboulet des prés. Là, il y avait du soleil les derniers jours où j'enregistre cette émission. Et j'ai profité que ce soit les premiers jours du printemps pour aller cueillir des jeunes pousses d'herbe dans les champs. Du coup, j'y suis allé le matin et j'ai cherché les pousses les plus tendres. Des plantes suivantes, alors des orties, du coup on peut prendre les dernières feuilles, les feuilles les plus jeunes, qui sont du coup celles qui sont tout en haut de la plante. Pour cuire les orties, il faut bien penser à mettre des gants, sinon on va se piquer les doigts. Du plantain, pareil, les jeunes pousses de plantain, des pissenlits, des feuilles d'achillée millefeuille, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? De l'oseille. Bon, il y a peut-être, j'en oublie une ou deux, en tout cas, pas mal de plantes, des jeunes pousses, des jeunes feuilles de plantes se mangent. Bon, après, si vous vous y connaissez pas trop, vous pouvez toujours regarder dans le livre pour être sûr que c'est comestible. En tout cas, celles que je vous ai citées, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez aussi goûter, au moment où vous les cueillez, vous pouvez goûter un petit bout de la feuille pour vous donner une idée du goût. Par exemple, il y a différentes oseilles, et c'est assez fort en goût l'oseille. Si vous mettez la moitié d'oseille dans votre taboulet, ça va être assez fort. Moi, je trouve que la feuille d'achillée, c'est un petit goût genre noisette. Enfin bref, il y a des goûts comme ça. Le plus simple, c'est de goûter un petit bout de la feuille dans le champ. Et comme ça, vous voyez si vous voulez en mettre beaucoup, pas beaucoup. Les orties, ne pas les manger comme ça dans le champ. Parce que ça peut, on peut se piquer la langue ou le palais. Les poils urticants des orties, ils se désactivent une fois qu'on les mélange dans l'huile. Du coup... même pour les nettoyer à l'eau, toutes les plantes, c'est bien de les nettoyer à l'eau parce qu'on va les manger fraîches et crues. C'est bien pour les orties d'avoir encore des gants. Et après, une fois que qu'elles sont coupées en petits morceaux et qu'on les mélange dans un bol avec de l'huile, là les orties ne piquent plus. Du coup, là il n'y a plus aucun risque. Il faut bien les mélanger avec de l'huile. Et du coup, toutes ces herbes coupées en petits morceaux, je mets, là vous mettez la vinaigrette que vous aimez bien. À côté de ça, je prépare de la semoule. Pas hésiter à prendre beaucoup d'herbes pour qu'au final, il y ait un mélange vraiment presque moitié-moitié semoule et herbe. Du coup, moi, la semoule, je prends de la semoule sèche, que je mets un peu d'huile d'olive dedans. Avec une fourchette, je répartis bien l'huile d'olive partout pour que chaque grain soit bien enrobé d'huile. Ensuite, je verse de l'eau bouillante sur la semoule, le même volume d'eau bouillante que le volume de semoule. Je couvre et je laisse gonfler. Ah oui, j'ai mis du sel aussi. Et on peut déjà avoir mis des épices si on a envie. Ou des raisins secs ou ce qu'on veut pour que ça gonfle aussi. Et en tout cas, on couvre et on laisse gonfler pendant au moins 5 minutes. Et après, avec une fourchette, on vient égrainer la semoule. Ensuite, on laisse un peu refroidir la semoule. Quand elle est tiède, on peut la mélanger avec toutes les herbes. À côté de ça, vous avez préparé, je sais pas, vos légumes. Moi, je vais manger ça avec des carottes râpées, par exemple. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Et ben voilà la recette du taboulet des prés. N'hésitez pas à aller faire des cueillettes.
Voilà, voilà, c'est la fin. C'était le Radiovirus Show avec Lola, Diane, Mona et Crystal. Vous pouvez nous retrouver sur radiovirus.squat.net. On se quitte avec Douche Froide Dissection. À la prochaine.
Salut.
Salut.
Ciao.
Elle bouge et je ne fais que la fixer.